Oui, le commentaire de Nicolas Brisson. Salut, Nicolas.
Salut, LP.
Alors, on va parler de pétrole et du Conseil de la Fédération.
Ben oui, aujourd'hui a débuté le Conseil de la Fédération qui réunit tous les premiers ministres des provinces du Canada. Et évidemment, le gros sujet de conversation, c'est le pétrole. Et ça a beaucoup changé, là, parce qu'on regarde la composition autour de la table, là, les premiers ministres qui sont autour de la table, ça a changé. On pourrait même dire que là, ça ressemble de plus en plus à un congrès du Parti conservateur.
Ben oui.
Là, avec l'arrivée de...
Ça a viré à droite, pas à peu près, là.
Ben là, t'écoutes, t'as Jason Kenney en Alberta, Doug Ford en Ontario, t'avais déjà Scott Moe, Saskatchewan, Brian Pallister, là, t'as Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard. D'ailleurs, t'as le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, qui s'est pas gêné pour lancer un appel au premier ministre en leur disant d'appuyer son projet là, de corridor énergétique, ça... En bon français, ça veut dire un pipeline, hein, parce qu'on aura compris que c'est une façon de convaincre les Québécois de faire passer le pipeline. Là.
Fait que là, tu es en train de me dire qu'au Conseil de la Fédération, présentement, François Legault a l'air d'un politicien de la gauche?
Ça ressemble pas mal à ça avec le premier ministre. Avec le premier ministre de la Colombie-Britannique, là, ce sont les deux seuls qui s'opposent au pipeline. Mais quand même, ce qui est important de noter par rapport à ça, c'est que là, on se rend compte de plus en plus là que le Québec devient un obstacle à l'exploitation du pétrole des sables bitumineux, du pétrole de l'Alberta, parce que là, oublions pas là que Justin Trudeau, il a beau dire qu'il est vert, vient d'acheter un pipeline dans l'Ouest à 4,3 milliards, il va tripler l'exploitation du pétrole des sables bitumineux en investissant 9,3 milliards dans un nouveau pipeline. Il n'a pas encore dit qu'il ferait tout pour bloquer NRJ-S. On connaît la position du Parti conservateur. Donc là, vraiment, le Québec là, est un empêcheur de tourner en rond et c'est une très bonne chose. Par contre, on s'est rendu compte que François Legault est quand même capable de faire alliance. Là. La grosse nouvelle, c'était hier que le Québec là, va faire cause commune avec la Saskatchewan pour invalider là, les jugements des tribunaux qui disaient que la taxe carbone est une compétence exclusive du fédéral. Là. Et ce que j'ai compris de Sonia Lebel, la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes, c'est que dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est pas parce que tu es d'accord avec le voisin, donc c'est pas parce que tu es d'accord avec la taxe annoncée par le fédéral que tu vas lui céder le terrain. Donc, ce que craint Québec, là, c'est que, dans le fond, notre bourse du carbone, nous, ça fait déjà longtemps que les Québécois, il y a un consensus là-dessus, ben, elle est encore de supervision fédérale. Et ce que j'ai compris, c'est que là, ces jugements-là, là, des tribunaux dans les provinces pourraient faire en sorte que, là, vraiment, le fédéral serait considéré comme une compétence exclusive. Bref, c'est vraiment le gros enjeu, le pétrole. On sait que l'Alberta, avec Jason Kenney, veut même tenir un référendum pour remettre en question la formule de péréquation. Et ça, c'est une façon de dire aux Québécois, ben, si vous n'êtes pas pour le pipeline NRJ-S, ben, éventuellement, là, on va vous couper dans vos transferts. Là. Sauf que LP, en même temps, il me semble qu'il y a d'autres enjeux importants au Canada, là, parce que je regarde ça, là, je comprends l'agenda des premiers ministres de l'Ouest, là. Mais François Legault, par exemple, a amené la question de l'immigration. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, augmenter le nombre, la proportion d'immigrants économiques? Ça, c'en est une. Bon, il y a toujours l'éternelle question qui revient à chaque année là, du commerce, de lever les barrières du commerce interprovincial. On a l'impression que ça avance jamais. On pourrait parler de logement social aussi. On vit une crise du logement, par exemple, ici à Gatineau. Donc, moi, ce qui me dérange un peu là, dans ce conseil de la fédération-là, qui ressemble de plus en plus à un congrès du Parti conservateur, c'est que vraiment l'agenda pétrolier de l'Ouest prend pas mal toute la place, puis ça laisse peu de débat ou de discussion sur d'autres enjeux très importants pour l'ensemble des Canadiens.
On verra la suite, évidemment, le dénouement de tout ça et comment Justin Trudeau va rebondir avec ça en campagne électorale. Twitter, un tribunal qui interdit à Trump de bloquer des comptes.
Oui, moi je trouve, écoute, j'ai lu ce que ce qui était rapporté dans les médias, le jugement en question, là. Je trouve ça complètement loufoque, là, qu'on interdise, que ce soit un président, un député, un conseiller municipal, peu importe, à un élu, d'exclure des comptes. Je dis bien des comptes. C'est pas des citoyens, là, sous prétexte que, comme le président des États-Unis utilise Twitter pour faire connaître ses politiques, ben, on ne devrait pas avoir droit d'empêcher les gens de le suivre sur Twitter. Je m'excuse.
Il y avait eu un débat semblable avec le maire Watson à Ottawa, si je me rappelle bien, Nicolas.
Oui, absolument. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça pourrait éventuellement, là, je ne sais pas si les tribunaux canadiens pourraient en venir là aussi, mais moi, je pense que là, il y a une incompréhension des juges de ce que sont les réseaux sociaux. Par exemple, là, on mentionnait qu'il y avait des gens qui étaient en opposition à Trump, qui avaient bloqué, qui, là, ne pouvaient pas aller lire le compte du président. C'est totalement faux, moi. Tout de suite, là, LP, je peux trouver 3 comptes de Twitter, là. Je veux dire, ce sont des comptes d'un réseau social. Twitter n'est pas un organe officiel de la Maison-Blanche. Twitter n'est pas non plus un média, là. C'est pas un média qu'on empêche. On n'empêche pas un journaliste de suivre le président. Là, c'est vraiment des comptes sur les réseaux sociaux, parce que la conséquence de tout ça, ça voudrait dire que les députés, les conseillers municipaux, peu importe, les élus seraient obligés de se faire insulter, d'endurer quelqu'un qui les insulte littéralement, qui sont souvent des comptes
anonymes. Des faux comptes. Oui. Il y a autant de vrais comptes que de faux comptes sur Twitter.
Exactement. Et comme je te dis, il y a rien qui empêche les gens de s'ouvrir un compte et de suivre le président s'il bloque sur un autre compte, là. Donc, tu sais, moi, je dis souvent que Twitter, ça ressemble à une taverne numérique, là. Tu sais, il y a tellement de trolls là-dessus, puis ça s'insulte, puis c'est plein de faux comptes, comme tu dis. Donc, vraiment, là, il y a une grande incompréhension des tribunaux de ce que sont les réseaux sociaux pour en venir à une décision
et
dire à un politicien, t'as pas le droit de bloquer quelqu'un qui t'insulte.
Pis c'est le monde à l'envers un peu, parce que tu parlais de Trump qui, effectivement, à moins qu'il y ait eu des développements que j'ai manqués, bloquait des journalistes à certains de ses points de presse à la Maison-Blanche. Et ça, c'est drôle, il n'y a pas de décision du tribunal là-dessus?
Ça, je pense, de toute façon, il n'y avait pas le droit. Là. Je pense, oui, il y a eu une décision, ça se peut-tu? Il me semble que c'est le journaliste, si je me souviens bien, de CNN.
OK, c'est réglé, ça.
Oui, c'est okay. Réglé. Il avait enlevé l'accréditation d'un journaliste.
Oui.
Mais ça s'est réglé, LP, très, très, très rapidement, là, de mémoire. Là. Mais ça, c'est extrêmement grave. Là, on parle vraiment là, d'une atteinte...
À la liberté de presse.
À la liberté de presse.
Ben oui.
Tout comme
Et au droit du public à l'information.
Exactement. Tout comme si un citoyen écrit un courriel à Donald Trump sur son adresse de président, ou peu importe, communique avec la Maison-Blanche, et la Maison-Blanche a la responsabilité de lire la communication du citoyen ou de la citoyenne. La même chose pour un député. Quand on touche à une institution, aux institutions, à ce moment-là, c'est pas pareil. Mais là, on parle d'un compte Twitter, là, d'un compte privé. Je comprends que le président et les politiciens utilisent ça, mais tu peux pas dire par un jugement, t'es obligé, t'as pas le droit de bloquer des comptes, comme on dit, puis qu'en plus, on sait que souvent, c'est des faux comptes.
Oui, ben moi, dire donc, une affaire, puis on va se laisser là-dessus. Il y a bien des affaires qu'on devrait réglementer sur les médias sociaux avant des histoires de blocage de comptes, là.
Ah oui, absolument. Puis moi, je pense qu'il y a bien des juges là qui devraient s'informer de ce que c'est réellement là les réseaux sociaux, parce qu'on n'en viendrait pas à des jugements aussi loufoques que ça. Là.
Et voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne soirée.
Au plaisir. À demain.